BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurent Saint-Martin, bonjour. Merci d'être avec nous. On voit que vous êtes chez vous. Vous êtes, il faut-il le rappeler, député de La République En Marche du Val-de-Marne. Et donc, je le disais, rapporteur du budget de l'Assemblée nationale. On va parler gros sous, loi de finances rectificative. C'est sûr que les hypothèses qui ont été mises dans la loi de finances rectificative qui vient d'être votée sont sans doute déjà dépassées. Mais d'abord, ce plan de déconfinement, on sait que le gouvernement est en train de rendre les derniers arbitrages. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous connaissez déjà quelque chose à ce que va proposer demain le Premier ministre ?
Non, je laisse vraiment la primeur au Premier ministre de faire ses annonces devant la représentation nationale demain à 15h. C'est important de rappeler que le gouvernement a fait le choix de présenter ce plan et sa stratégie nationale de déconfinement devant la représentation nationale. Il ne s'est pas contenté d'une simple conférence de presse, donc il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, évidemment en effectif réduit pour des raisons évidentes de conditions sanitaires exigées. Et puis, effectivement, il y aura un vote non contraignant, comme le prévoit la Constitution dans ces cas-là, mais les députés seront soumis au débat et au vote suite
à la présentation de cette stratégie. Oui, mais en même temps, est-ce que, sans rentrer, parce que surtout ici, ce n'est pas l'objet, hein, mais dans la politique politicienne, est-ce que quand même de demander de voter sur un texte qu'on vient de découvrir, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Parce qu'il faut quand même... C'est très important ce déconfinement, les conditions de ce déconfinement, notamment pour la reprise économique.
C'est le propre de l'article 51 de la Constitution. Vous savez, à chaque début de gouvernement, il y a ce qui s'appelle une discussion de politique générale. Les députés en débattent et la votent. C'est la même chose. Nous la découvrons quand le Premier ministre la présente. Et c'est en fait assez normal.
Mais les députés savent un petit peu ce qui se passe avant quand même.
Mais les députés auront jusqu'à 18h pour exprimer leur vote. Le fait que ce soit un vote non contraignant change effectivement la donne. Moi, je retiens surtout que le Parlement est respecté dans cette séquence, puisque c'est devant lui, effectivement, que le gouvernement vient présenter sa stratégie dont je ne connais pas tous les détails, puisque
qu'est-ce qui est important à vos yeux?
Les arbitrages sont encore en cours.
Je disais que vous êtes le rapporteur du budget. On voit que c'est très, très important, encore une fois, pour l'économie qui souffre énormément, et les entreprises. Qu'est-ce qui est important à vos yeux dans ce plan de déconfinement, Laurent Saint-Martin?
Alors d'abord, à mes yeux, c'est que l'on puisse à la fois reprendre le plus rapidement possible l'activité économique tout en respectant effectivement les conditions sanitaires. Tous les pays sont confrontés à cette double difficulté. Mais il faut bien avoir conscience que mettre notre économie sous cloche, mettre nos emplois de façon perfusée par du financement de chômage partiel, c'est un coût considérable pour la collectivité. Et il est nécessaire effectivement que nos entreprises, notre économie, nos emplois redémarrent le plus tôt possible. Mais redémarrer le plus tôt possible, ce n'est pas redémarrer n'importe comment,
en prenant des tests et des masques.
Voilà.
On n'aurait pas été là.
Donc c'est cette convergence entre ces différents facteurs que le gouvernement va mettre en place. Mais moi, mon souci, puisque vous me posez la question, c'est que tout simplement, toutes les entreprises puissent reprendre le plus tôt possible en fonction des secteurs d'activité. Et ce ne sera pas possible tout de suite pour tout le monde, qu'on se le dise. Il va effectivement y avoir les secteurs d'hôtellerie, de restauration. Nous savons très bien que cela va durer plus longtemps.
La construction.
Et c'est pour ça que des plans... Exactement. C'est pour ça que des plans particuliers d'accompagnement sont déjà en place. Sur le tourisme, ça a été notamment déjà présenté. Il y aura, secteur par secteur, des plans de relance et d'accompagnement qui seront fonction de la durée du confinement.
Et est-ce que le déconfinement sera, non pas région par région, on l'a compris, mais j'ai envie de dire secteur par secteur?
Et en fait, vous savez, le confinement a déjà été fait secteur par secteur, puisque vous vous souvenez que certaines entreprises pouvaient continuer à travailler et d'autres non. Le déconfinement suivra une logique similaire, c'est-à-dire que l'urgence sanitaire et les conditions de risque de contagion et de propagation du virus resteront le principal facteur de décision pour savoir quelle entreprise peut continuer à travailler ou reprendre son activité de façon séquencées. Nous ne sommes mus que par le seul facteur de l'absence de propagation du virus. Mmh. Parce que si c'est pour ouvrir tous les commerces, tous les restaurants et reprendre la vie d'avant et repartir sur une seconde vague tout de suite, ça n'a aucun intérêt.
Oui, et en même temps, il y a une récession de moins 8%, il y a un déficit justement abyssal. On voit bien qu'on a besoin de reprendre aussi l'économie.
On a besoin de reprendre tout en empêchant effectivement qu'une deuxième vague de virus arrive alors que nous n'avons pas encore terminé la première, malgré une décroissance très positive du nombre de décès et du nombre d'hospitalisations en réanimation. Ouais.
Alors, loi de finances rectificative, donc il y a eu un budget, loi de finances rectificative évidemment qui vient d'être adoptée avec des hypothèses assez fortes, hein, avec un 9,1% de déficit public, une dette de 115%, un recul de 8% du PIB, déjà des chiffres quand même très impressionnants. Mais on sent bien la vitesse à laquelle s'accélère cette crise avec le Covid. On voit bien qu'il faudra sans doute une nouvelle loi de finances rectificative. Est-ce que vous pouvez nous la confirmer, Laurent Saint-Martin ?
Oui, en fait, il faut bien comprendre que ces deux premières lois de finances rectificatives ont été des lois vraiment d'urgence, de soutien à la trésorerie des entreprises et également de soutien aux ménages les plus modestes par rapport à la prime précarité. Donc là, on a vraiment soutenu une économie mise sous cloche. Le prochain texte, alors d'abord laissons ce deuxième PLFR effectivement prendre toute sa place dans l'activité économique.
Mais il est déjà dépassé.
Non, il n'est pas dépassé, dans le sens où il y a plein de nouvelles mesures qui sont mises en place, notamment autour du fonds de solidarité, notamment autour des prêts garantis par l'État avec des nouvelles dispositions dont les entreprises vont pouvoir se saisir. Donc il n'est pas dépassé, il commence. En revanche, ce qui est vrai, c'est que probablement qu'avant l'été, il faudra penser à un collectif budgétaire dit de reprise, cette fois-ci, ou de relance, comme on veut. On ne va pas pouvoir attendre le projet de loi de finances annuelle qui commence au mois d'octobre pour préparer la relance de secteurs d'activité qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc oui, il sera évidemment nécessaire d'avoir encore un texte, mais qui sera plus teinté de relance que teinté de soutien d'urgence, donc davantage sectorisé et qui prendra en compte d'autres problématiques, peut-être fiscales, probablement budgétaires, mais qui sera différent et avec une tonalité différente que ce que nous avons connu depuis un mois, qui était vraiment de l'urgence et du soutien à la trésorerie.
Dernière question, Laurent Saint-Martin, le coût du chômage partiel, Muriel Pénicaud, qui était mon invité il y a quelques jours, a donc dit qu'on avait franchi le cap des 10 millions de Français salariés au chômage partiel. Le coût estimé au départ a été de 8,5 milliards, maintenant il est de 24 milliards, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, il est sans doute de 30, non ?
Oui, alors quand on dit coût, c'est effectivement un coût partagé entre l'État
et l'UNEDIC, qui est
une situation très difficile. Effectivement, on tangentera les 30 milliards d'euros. Mais vous savez, on a dit dès le début de cette crise que c'était l'outil le plus efficace pour permettre aux entreprises de traverser cette tempête. Nous l'assumons. Ça coûte très cher à la collectivité et nous devrons l'assumer collectivement. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de l'endettement plutôt que de la mise au chômage de ces millions de Français. Je pense que c'est un choix honorable qu'il faut collectivement assumer. Mais effectivement, ça crée du déficit sur nos comptes publics.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir donné toutes ces précisions. Laurent Saint-Martin, donc député de La République En Marche du Val-de-Marne et donc rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Dans un instant, elle aussi est très attendue. C'est Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. On va parler de cette application Stop Covid avec tous les fantasmes que ça suscite en France. On voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Marie-Laure Denis, donc présidente de la CNIL. Bonjour, merci d'être avec nous, parce que depuis deux jours, vous êtes au cœur de toute cette polémique qui concerne cette application Stop Covid que veut créer le gouvernement et qui permettrait aux Français, pour ceux qui la téléchargeraient, qui permettrait aux Français de savoir s'ils ont croisé ou pas des gens qui ont été contaminés par ce Stop Covid. Marie-Laure Denis, est-ce que d'abord, vous êtes un peu étonnée par toute cette polémique autour de Stop Covid, de cette application?
Bonjour Edwige Chevrillon. D'une certaine façon, non, ça me paraît sain dans un pays démocratique qu'il y ait un débat sur un dispositif qui est tout sauf anodin, qui a pour conséquence de conserver pendant un certain temps l'historique des personnes que vous avez rencontrées. Donc, il est normal qu'il y ait des questions qui soient posées et qu'il y ait des questions à la fois juridiques, techniques, éthiques et politiques qui s'invitent dans le débat.
Oui, mais en même temps, alors hier, vous avez suscité un peu des interrogations, parce que vous avez dit que cette application était conforme, mais vous demandiez des garanties supplémentaires. Alors d'abord, quelles garanties supplémentaires? Et puis deux, est-ce qu'il fallait vraiment un vote à l'Assemblée nationale sur cette question?
Alors sur la deuxième partie de votre propos, il dépasse le champ de compétence de la CNIL, c'est à la représentation nationale de se saisir, si elle le souhaite, de ces questions, en articulation avec le gouvernement. Sur la première partie, ce qu'a dit le collège de la CNIL, qui a rendu un avis effectivement à ce stade sur les principes de cette application et sur le protocole technique tel qu'il lui a été présenté, mais qui peut être amené à évoluer, c'est que il n'y a pas à choisir entre la protection de la santé et la protection de la vie privée. Ce qu'a dit la CNIL française, toutes les CNIL européennes l'ont dit, le cadre juridique permet, dans des circonstances exceptionnelles, uniquement dans des circonstances exceptionnelles telles que nous les connaissons, de déployer un dispositif automatisé de suivi des personnes pour pouvoir les alerter si elles ont été en contact avec une personne qui a été contaminée, mais à condition qu'il y ait des garanties. Et ce que nous avons dit, c'est que le projet qui nous a été présenté à ce stade présente un certain nombre de garanties, mais que nous avons entendu les préciser. Parce que ce qu'il faut bien, qui est extrêmement important, pour que cette application soit efficace, si elle est mise en œuvre, il faut qu'elle repose sur la confiance des utilisateurs dans la protection de leur vie privée.
Il faut qu'il y ait combien de personnes à peu près?
Alors ça, c'est un sujet de débat. Il y a une université britannique, il faut qu'il y ait 60% de la population qui ait téléchargé l'application pour que ce soit efficace. Nous, nous avons vraiment cherché à la CNIL à nous ancrer dans la réalité du contexte sanitaire. Nous avons auditionné des épidémiologistes du conseil scientifique qui nous ont dit toute personne qui pourrait être alertée qu'elle a été en contact avec une personne contaminée et de ce fait se dépister, était une brique supplémentaire en complément, encore une fois, du traçage manuel qui existe aujourd'hui pour alerter les personnes.
Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que si on est un peu concret, Marie-Laure Denis, parce que c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. En plus, elle sera sans doute pas prête pour peut-être la fin du mois de mai, mais en tous les cas, pas pour le 11 mai. Vous avez toutes les personnes les plus contaminées dans les EHPAD, souvent, ils n'ont pas de smartphone. Vous avez tous les gens qui ont un iPhone qui vont être exclus puisque le gouvernement ne veut pas, Cédric Haut l'a encore redit, il ne veut pas tendre la main aux plateformes type Apple ou Google pour cette application Covid en disant que ça sera une application uniquement d'État, j'ai envie de dire, française. Il y a beaucoup de gens quand même qui vont être exclus par de facto de cette application. Donc on va être avec au mieux un taux d'utilisation très faible.
Alors très faible, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez souligné à juste titre qu'il y a 25% de la population qui n'a pas de smartphone, ça fait 13-15 millions de personnes environ, et parmi celles qui en ont, toutes ne sont pas d'ailleurs à même de télécharger une application et de savoir l'utiliser. Et puis après, il faut que les téléphones, selon leur marque, dialoguent bien entre eux et également. Mais en fait, encore une fois, je crois que cette application, ça n'est pas une baguette magique, elle vient en complément d'autres dispositifs, notamment d'un traçage manuel qui existe déjà aujourd'hui. Quand une personne est contaminée, on lui demande aujourd'hui, sans numérique, avec qui elle a été en contact, et on essaye d'alerter ces personnes également. Si vous me permettez, je pense que cette application, elle vise essentiellement des personnes dans des zones très urbaines qui prennent les transports en commun et qui ont une activité professionnelle et qui, la plupart du temps, elles sont équipées de façon assez significative en smartphone.
Ce qui compte, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'efficacité. Pourquoi exclure Apple et Google? On voit que le gouvernement allemand, il vient tout juste là, il y a quelques heures, d'opérer un virage à 180 degrés sur ce traçage numérique, en décidant d'ouvrir à Apple et à Google, en disant ce qui compte, c'est l'efficacité d'une telle mesure. Nous, Cédric Haut vient de la refermer, je le disais. Pourquoi on exclut encore plus de personnes?
Mais nous n'avons pas, dans l'avis que nous avons donné, été saisis sur ces questions, qui encore une fois dépassent le champ de la compétence de la CNIL, mais en fonction de l'évolution du projet, le cas échéant, la CNIL de toute façon rendra, si le débat parlementaire était concluant sur ce point, un deuxième avis avant la mise en œuvre de l'application. Donc ça serait le moment, le cas échéant, de se pencher sur ces questions. Oui. Que nous n'avons pas abordé à ce stade.
Mais oui, mais vous dites que ce n'est pas dans votre champ de compétence, si, parce que la grande question, c'est de savoir si c'est Big Brother. Est-ce que si ce serveur et cette application va nous pomper nos données ? J'ai envie de dire, quand on va sur Twitter, on nous pompe déjà toutes nos données. Donc les gens qui protestent aujourd'hui, j'ai envie de dire, il ne faut peut-être pas qu'ils aillent sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Donc est-ce qu'il y a un danger ou quelles pourraient être les données que pourraient utiliser contre notre gré ceux qui, le gouvernement ou d'autres, qui mettent au point cette application Stop Covid.
Alors, aujourd'hui, ce sur quoi, pour être concret, ce sur quoi nous avons insisté dans notre avis, c'est que les données qui sont en cause sont des données qui ne sont pas directement identifiantes, puisqu'il ne s'agit pas, par exemple, de données, on vous demande pas votre nom quand vous téléchargez l'application, on vous demande pas votre numéro de téléphone, on vous demande pas votre adresse mail, ce ne sont pas non plus des données de géolocalisation, des données qui permettent de vous suivre à la trace de façon précise et continue, ce sont des données qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire que sont stockés sur votre téléphone les téléphones que vous avez rencontrés dans les jours précédents, mais sous la forme, en quelque sorte,
Une
image de carte de visite pseudonymisée, c'est-à-dire c'est des suites de chiffres sans signification et qui sont propres à chaque téléphone.
Donc où est le problème ?
Il faut éviter, en tout cas, de pouvoir recréer un lien entre ce pseudonyme et l'utilisateur du téléphone. Et donc, il y a des règles de sécurité. Certaines sont prévues naturellement dans le protocole et nous avons appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de les renforcer encore, protéger les clés de chiffrement, avoir des algorithmes cryptographiques qui sont à l'état de l'art. Voilà, il y a tout un ensemble de préconisations techniques et de sécurité que nous avons rendues dans notre avis. Mais cette application, elle ne recueille pas, en tout cas elle ne fonctionne pas sur la base de données nominatives.
Oui, donc il y a quand même un peu une phobie française par rapport au numérique, non ? Parce que même à vous écouter, Marie-Laure Denis, il n'y a pas vraiment de risque.
Il y a toujours un risque de réidentification possible quand
on utilise des pseudonymes. Oui, mais sur Twitter, on l'a aussi, sur Facebook ou ailleurs, on l'a aussi.
En tout cas, si l'occasion de ce débat sur cette application peut être aussi effectivement l'occasion d'une prise de conscience sur le fait que dans nos comportements numériques au quotidien, nous livrons plus ou moins consciemment beaucoup de données aux grandes plateformes numériques de façon volontaire parce que nous sommes heureux d'utiliser leurs services de façon gratuite, c'est aussi une prise de conscience salutaire. Mais il y a d'autres garanties que nous avons sur lesquelles nous avons attiré l'attention du gouvernement, c'est celle du volontariat, tout d'abord. Il ne suffit pas de dire que cette application est volontaire, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de conséquences au refus de la télécharger. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas téléchargé l'application doit pouvoir tout autant qu'une personne qui l'a téléchargé, accéder aux soins, accéder aux tests, accéder aux transports publics, accéder
à
son lieu de travail, à son entreprise, voilà. Et donc il est très important que en tout cas que ce volontariat soit réel. Il y a un autre élément sur le coup.
Et ça, ce n'est pas dans le texte tel qu'on vous l'a soumis.
Dans le texte qu'on nous a soumis, il est dit que c'est sur la base du volontariat, mais à ce stade, nous avons été saisis d'une lettre avec attirant notre attention sur un certain nombre de points juridiques, techniques. Nous avons un protocole technique et dans la décision de plus d'une dizaine de pages que nous avons rendue, nous décrivons ce que doit être la conception du volontariat qui doit être l'expression d'un consentement réellement libre et éclairé. Nous avons beaucoup insisté aussi sur la temporalité. Nous traversons une situation exceptionnelle. Cette application est aussi une réponse qui, d'une certaine façon, est exceptionnelle et qui ne peut pas durer très clairement au-delà de la crise. Il est très important...
Mais c'est quand la fin de la crise ? C'est difficile de la dater.
Alors, c'est une vraie question et c'est la raison pour laquelle il est important. Le secrétaire d'État au numérique a dit, par exemple, qu'il y aurait un comité indépendant avec des parlementaires, des spécialistes qui évalueraient. Le mot évaluation est extrêmement important, de façon régulière, la nécessité de cette application. Parce que cette application, elle n'a vocation à être en vigueur, à être en usage, que dans la mesure où elle est nécessaire et utile en complément d'une stratégie sanitaire beaucoup plus globale.
Oui. Mais donc, en même temps, je reviens un peu sur les chiffres, parce que je viens compléter les chiffres que vous nous avez donnés en disant qu'il y a 25% de gens qui n'ont pas de smartphone, il y a des gens qui ne savent pas s'en servir, il y a ceux qui sont en EHPAD, et on le disait, ce n'est pas la priorité, il y a ce volontariat, donc à la limite, on peut dire qu'il y a peut-être 15%, 20% des Français qui ne voulont pas. Donc, in fine, on va se retrouver avec une population assez restreinte, susceptible d'utiliser Stop Covid.
On a vu qu'à Singapour, qui a utilisé depuis un mois, en tout cas, il y a une vingtaine de pourcents, visiblement, il y a environ 20% de la population qui l'a utilisé. Ils n'avaient pas confiné avant.
Oui, mais ils ont confiné quand ils ont vu qu'il y avait 20% de gens qui utilisaient cette application.
Mais en tout cas, vous soulevez un point qui est extrêmement important. Ça souligne le fait que, sur lequel la CNIL attire l'attention, que ce dispositif, de toute façon, n'est qu'un des éléments d'une réponse sanitaire. S'il n'y a pas davantage de tests, s'il n'y a pas davantage de masques, s'il n'y a pas des gestes barrières, s'il n'y a pas une isolation des malades, ça n'est pas cette application qui va tout résoudre. Mais d'accord. Cette application peut être un des éléments, si elle est utile, d'une réponse sanitaire plus globale.
Peut-être, question de fin, question importante. Pourquoi finalement, ce n'est pas vous qui êtes le pilote, le tête de pont sur cette application Stop Covid, Marie-Laure Denis, à la CNIL ?
Mais nous jouons notre rôle en toute indépendance, c'est-à-dire qu'en amont, nous avons été sollicités pour dire auprès de l'INRIA, notamment, que l'Institut de recherche qui travaille sur ces sujets, quelles étaient les solutions les plus protectrices de la vie privée. Nous avons rendu un premier avis, nous allons en rendre un deuxième si cette application voit le jour, et nous assumerons à la CNIL, en tant qu'autorité indépendante, toutes nos prérogatives de contrôle, d'instruction des plaintes et de contrôle du respect des garanties qui seraient apportées pour déployer cette application. Nous serons la tête de pont, en tout cas, du contrôle si cette application voit le jour.
D'accord. Juste un minuscule mot, 20 secondes. Ce revirement qu'on vient d'apprendre en Allemagne, qu'est-ce que vous en pensez ? Revirement à 180 degrés en disant finalement on ouvre ça pour que Bluetooth puisse fonctionner à l'iOS, au smartphone et aux iPhones.
Moi je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer à ce stade sur ce sujet.
Ouais, d'accord. En tous les cas, merci beaucoup, très intéressant. On voit que ça soulève, j'ai presque envie de dire, on avait encore plus de questions après qu'avant, ou du moins sur l'utilité, l'efficacité, mais en tous les cas, merci toutes ces précisions. Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, était notre invitée. Voilà, c'est la fin de l'orage. Bonne journée, bien sûr. On se retrouve demain à 8h15 et midi. Au revoir.